Vous écoutez Radio Okapi, il est 9h à Kamalondo, 8h à Kauka, à Kinshasa. Les informations. Oh, oh, Okapi. Le journal Lucie Amba Nzembola.
Okapi. Mesdames et messieurs, bonjour. Les titres du journal. La RDC, le Sud-Soudan et l'Ouganda doivent protéger les populations civiles victimes des exactions des rebelles ougandais de la LRA. Recommandation faite à l'issue de la conférence régionale sur la problématique des LRA. Kinshasa se prépare à célébrer demain dimanche 8 mars la journée internationale de la femme. Yevin Mwinga a circulé dans la capitale. Vous suivrez son reportage dans ce journal. Et dans la seconde partie, nous vous parlerons des restaurants des fortunes appelés communément Maléwa, restaurants qui se retrouvent presque dans tous les rayons des marchés. Nous ouvrons ce journal par cette tripartite RDC Sud-Soudan et l'Ouganda qui mène des opérations conjointes contre les rebelles ougandais de la LRA. En RDC, ces pays doivent publier les termes des accords qu'ils ont signés. Ils doivent en outre protéger les populations civiles victimes des exactions de cette rébellion. Cette recommandation a été faite par les participants à la conférence régionale organisée par l'ONG internationale IKV Pax Christi sur la problématique des LRA. Cette conférence s'est clôturée hier à Arua, en Ouganda. La problématique du pétrole du lac Albert a été également abordée au cours de cette conférence qui a réuni les sociétés civiles et les ONG congolaises, sud-soudanaises et ougandaises. Les détails avec Isaac Remoyope.
Les délégués de ces trois pays ont passé en peigne fin les problèmes des LRA et du pétrole dans la région. Selon les chargés des programmes de l'ONG IKV Pax Christi dans les pays des Grands Lacs, depuis octobre 2008, plus de 1000 personnes ont été tuées et 900 autres enlevées par la LRA en Ouganda et en RDC. Les atrocités des LRA contre des civils ont provoqué le déplacement interne d'environ 150 000 personnes. Selon la même source, une solution régionale s'impose pour une paix durable dans la région. Face à ces défis, les participants à ces assises ont recommandé notamment au gouvernement de ces trois pays de collaborer pour que les leaders de la rébellion des LRA, Joseph Kony et ses hommes, répondent de leurs actes devant la justice. Concernant l'exploitation du pétrole au lac Albert, les délégués à ces assises ont plaidé pour la transparence dans la gestion des ressources pétrolières et la protection de l'environnement. Une commission régionale a été créée pour faire les plaidoyers des intérêts des communautés locales auprès des gouvernements congolais et ougandais. Bunya Isaac Remoyo, Radio Okapi.
Notez aussi cette importante rencontre qui s'est tenue ce vendredi au bureau de la MONUC à Bukavu autour de la finalisation du plan des désengagements des groupes armés du Sud Kivu. Tous les membres concernés par ces plans, à savoir la MONUC, le PNUD, le PNDDR, la SMI, le SEC, le POL, les FRDC et tous les représentants des groupes armés, excepté les FRF des Minumwe, ont pris part à ces assises. Il a été question d'expliquer aux participants comment appliquer le nouveau plan de l'intégration accélérée et celui de l'intégration classique pour les désengagés qui choisiront la vie militaire. Le secrétaire permanent du programme Amani au Sud Kivu, Célestin Boamoucho, nous aide à comprendre le concept d'intégration accélérée.
L'intégration accélérée concerne les combattants des groupes armés qui ont des armes et qui présentent une aptitude physique capable d'intégrer l'armée. Mais il y a une structure militaire intégrée qui est chargée de les contrôler avant d'intégrer les FRDC. Ils seront dotés des uniformes des FRDC et directement ils vont intégrer un ou l'autre bataillon proche du centre de regroupement.
Le concept d'intégration classique consistera pour les militaires non sélectionnés pour le concept accéléré à accomplir certains tests avant d'être conduits dans un centre de brassage. La journée internationale de la femme, c'est demain dimanche 8 mars, thème retenu cette année, hommes et femmes unis contre les violences faites aux femmes. Kinshasa se prépare à célébrer cette journée, comme l'explique Lievin Mwinga dans ce reportage.
Le traditionnel lieu de défilé, à savoir le boulevard triomphal, change de couleur. Une longue tribune métallique est en train d'être érigée sur place. Plusieurs personnes s'attellent au désherbage de l'endroit situé derrière cette tribune, ainsi qu'au balayage de ce tronçon. Entre-temps, des camions de l'hôtel de ville sont visibles sur cette voie. Ils ramassent des immondices. Des traçages des lignes blanches se font le long de ce boulevard. En plus, des latrines publiques sont aménagées. Autre constat, à quelques heures du 8 mars, les maisons de couture sont prises d'assaut par des femmes, des jeunes filles ou des petites filles. Toutes veulent s'habiller aux couleurs du 8 mars. Pour ce faire, on observe une certaine agitation dans plusieurs magasins et marchés où sont vendus ces pagnes. Et on peut lire sur ces tissus des phrases comme « Stop aux violences sexuelles faites aux femmes et aux enfants ». Mais pour l'heure, hommes comme femmes s'impliquent pour rendre cette journée belle.
Sachez hélas qu'en RDC, 6700 victimes des violences sexuelles étaient prises en charge par l'ONG internationale, le Médecins sans frontières, au cours de l'année 2008. Le MSF l'a déclaré au cours d'une conférence de presse organisée en marge de la journée de la femme. Ils ont par la même occasion présenté un rapport intitulé « Vie brisée » où sont repris les témoignages et la prise en charge des victimes des violences sexuelles. Ce rapport était rédigé sur base d'une enquête mené dans 5 pays, les grandes lignes de ce rapport avec Nadine Foulin-Simba.
Selon Olivier Chenbon, chef des missions adjoint de MSF, ce nombre de victimes ne représente qu'une infime partie des violences perpétrées dans cette partie. Cette situation est due au fait que l'accès aux centres de santé est très difficile dans ces zones. D'une manière générale, le MSF a enregistré au cours de la même année 18 000 cas de violences sexuelles. Parmi eux, 12 000 étaient prises en charge par cette ONG. Notons également que 80% des victimes sont des femmes, plus de 50% sont des mineurs et 18% sont des enfants de moins de 5 ans. Selon toujours Olivier Chenbon, l'objectif visé dans ce rapport est de sensibiliser les victimes des violences sexuelles à recourir le plus vite possible aux soins médicaux, soit 72 heures après les forfaits. Et Sylvaine Lolance Maël est coordinatrice médicale de MSF d'ajouter que cette prise en charge est psychologique et médicale. À la fin, un certificat médical est délivré aux victimes dans lequel sont repris les dégâts commis sur la victime, ce qui lui permet de porter plainte ou pas contre ses bourreaux.
Et puis, signature hier vendredi à Kinshasa du protocole d'entente entre la ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé de la communauté française au Wallonie-Bruxelles et la ministre congolaise du Genre, de la Famille et de l'Enfant. Ce protocole vient en appui à la campagne de vulgarisation de la loi portant protection de l'enfant, loi promulguée en janvier dernier par le président Kabila. La signature de ces documents intervient à l'issue des 3 jours des travaux avec les acteurs congolais de terrain, de l'administration de la région wallonne, des universités pour un échange d'expertise dans le domaine de l'enfant. Objectif, la mise en œuvre du code de protection de l'enfant en RDC à tous les niveaux de la société congolaise et dans la vie quotidienne. Comme le précise la ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé de la communauté française Wallonie-Bruxelles, Catherine Fanck est au micro de Noëlla Luzitu-Kabambi.
Ce n'est qu'une étape. Étape fondamentale, ça modifie vraiment de façon importante la manière dont légalement l'enfant est pris en compte et considéré. Et je crois que c'est toujours une étape importante au niveau d'un pays, quel qu'il soit. Et cette étape ne suffit pas. Une loi seule serait évidemment une coquille vide. Et l'important, c'est évidemment aussi de continuer ce travail et permettre la déclinaison, l'opérationnalisation de ces lois à travers les différents articles. Les enjeux sont très importants, que ce soit les enfants des rues, les enfants soldats, les enfants exploités sur le plan sexuel ou économique. Sans loi, on ne pourrait pas opérationnaliser le travail de terrain. Et donc c'est évidemment maintenant tout cet enjeu qui nous attend pour suivre et développer plus encore demain et après-demain.
Autre nouvelle, la lutte contre les mines antipersonnelles en RDC se porte bien. C'est l'affirmation du coordonnateur de la campagne congolaise pour interdire les mines. Francky Miantouala a fait cette déclaration ce vendredi à Kinshasa à l'occasion de la commémoration du 10e anniversaire de la Convention d'Ottawa sur les mines antipersonnelles. Au micro d'Axel Gancho, il énumère les raisons qui le poussent à juger positif le bilan de la lutte anti-mines en RDC.
De façon globale, il convient de signaler que la lutte anti-mine se porte bien. Je me permets d'être optimiste. Au moment où nous parlons, tous les stocks connus de mines antipersonnelles ont été détruits. La RDC est en train de se doter d'une législation nationale pénale sur les mines antipersonnelles. La RDC est en train d'élaborer les normes nationales de lutte contre les mines antipersonnelles. Dans les zones contaminées, dans les zones polluées, il y a des centaines de séances d'éducation au risque des mines pour permettre aux populations qui vivent dans les zones minées de pouvoir adopter un comportement sûr, notamment à Goma, à Bukavu, à Pweto, à Kabalo, à Ikela en Équateur, à Gemena, dans la province orientale à Kisangani.
Okapi.
Okapi, toutes les infos de l'ensemble du pays.
La seconde partie du journal, je reçois dans ce studio Thérèse Kankou. Bonjour Thérèse.
Bonjour Lucie.
Plus de trafic sur la route Boma-Mwanda depuis 4 jours.
Et pour motif, cette voie du Bas-Congo s'est coupée à 20 km de la ville de Boma, à l'endroit connu sous les noms de Numéro. Conséquence, plus d'une dizaine de véhicules sont immobilisés de part et d'autre selon des sources contactées sur place. Toujours selon les mêmes sources, c'est à cet endroit où sont installés les Chinois qui doivent réhabiliter cette route longue d'environ 230 km. Les ministres provinciaux des infrastructures, joints par Radio Capi, a promis de faire une descente sur place dans les jours qui viennent.
Retour dans la capitale, Thérèse, pour parler des restaurants des fortunes appelés communément Malewa. Restaurants qui se retrouvent presque dans tous les rayons des marchés.
Construits souvent avec des bambous et entourés des sacs, ces Malewa permettent aux vendeurs, acheteurs et d'autres catégories des personnes d'avoir quelque chose à se mettre sous la dent au moment de la pause. Mais très souvent, les conditions hygiéniques laissent à désirer. Nadine Foula s'est intéressée à cet aspect hygiénique de Malewa, suivant son reportage.
Fabriqués au moyen de bambous ou de tôle, les Malewa ne sont pas seulement fréquentés par des populations démunies, mais aussi par certaines classes moyennes. Ils se diffèrent des restaurants par les prix modiques pratiqués par rapport aux vrais restaurants. Cela permet aux clients de prendre un repas en guise d'écalement avant de rentrer chez soi après les boulots. Au grand marché où nous avons été, les conditions hygiéniques des Malewa visités laissent à désirer. Les mouches volent sur le mets proposé, qui sont à moitié couverts pour permettre aux clients de voir directement les contenus de marmite. Les couverts utilisés ne sont pas bien lavés ou ils sont rincés avec de l'eau pas très propre. Une tenancière d'un Malewa nous a affirmé qu'elle, à son niveau, fait toujours un effort pour garder son restaurant propre.
Quand je prépare, je couvre pour éviter que les mousses se posent et donnent des microbes. Pour les couverts, je les lave et je les garde dans une marmite pour éviter des maladies.
Un quinoa croisé dans les environs n'est pas de cet avis.
À mon avis, les Malewa ne sont pas mauvais en soi, parce que nous quittons la maison vers 5 heures. Je choisis toujours les Malewa où les conditions d'hygiène sont respectées et où on prépare comme chez moi à la maison.
Selon un autre, ces restaurants ne sont pas mauvais en soi, car ils rendent d'énormes services, mais la propriété doit être rigoureusement respectée. À ce sujet, le ministère provincial de la Santé de Kinshasa a déjà initié un projet d'arrêté d'hygiène publique qui attend la signature du gouverneur avant son application.
Pas de crainte de contagion en étant en contact avec les tuberculeux sous cure.
Il ne faut pas non plus isoler un malade tuberculeux sous cure. Ce sont là les conclusions de l'atelier de 4 jours organisé à Kindu par les clubs des amis de Damien. Atelier axé sur la campagne de masse dans la lutte contre la tuberculose. Écoutez plutôt les présidents du club des amis de Damien au Maniema, Maxime Ilunga est au micro de Mathieu Ilunga.
Avec notre témoignage, quand moi je me fais voir aux gens pour dire que je suis un ancien tuberculeux, je suis le traitement, je suis guéri, tous ceux qui se cachent vont venir suivre. Quand aujourd'hui nous disons aux gens que la tuberculose, c'est lui qui est sous traitement, il ne peut plus être mis à l'écart, il doit continuer à manger avec les gens. C'est lui qui avait peur hier, qui avait honte, il va venir aujourd'hui. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui dise cela. Et celui qui peut dire cela, c'est les clubs des amis d'Amien qui ont les témoignages, qui ont l'expérience de cette maladie. Celui qui est sous traitement ne contamine plus. Donc ça ne sert à rien que celui qui est sous traitement qu'on lui mette à l'écart, qu'on mette ses ustensiles à l'écart. Non, celui qui est sous traitement, il doit être réintégré à la société. Vivre normalement. Au contraire, celui qui traîne encore, il doit vite venir pour qu'il continue sa vie. Parce que la tuberculose tue, quand on se soigne pas si tôt, quand on vient tard, on risque d'avoir beaucoup de complications. Et donc, venez vite, même quand vous avez encore 100 kilos, mais quand vous toussez plus de 15 jours, il faut aller voir si c'est la tuberculose. Faites-vous traiter. Il y a les amis d'amis qui vont vous accompagner. Venez, la tuberculose se soigne.
Culture, à l'occasion de la Journée internationale de la femme, l'artiste musicienne congolaise Mbili Abel se produira ce samedi à la halle de la Gombe à 19h.
Oui Lucie, il faudrait 1000 francs congolais pour y participer. Sachez aussi que dans les cadres du cycle du film japonais organisé par l'ambassade du Japon, il y a eu projection de 2 films hier vendredi. L'un a été projeté à 14h, l'autre à 19h dans la salle polyvalente de la halle de la Gombe.
En dehors de nos frontières, le nouveau premier ministre zimbabwéen Morgan Tsvangirai a été victime hier vendredi soir d'un accident de la route, 3 semaines après avoir formé un gouvernement d'union avec son rival de toujours. Sa femme, Suzanne, a été décédée dans cette collision avec un camion à Harare. Celui qui a incarné pendant 10 ans l'opposition au président Robert Mugabe a été hospitalisé dans un hôpital de la capitale dans un état stationnaire. Le couple, qui a eu 6 enfants, se rendait à un meeting à Buera, d'où ils sont originaires. sport, après la trêve observée jeudi et hier vendredi, on joue ce soir le match pour la troisième place du Chan. Les Lions du Sénégal et les Chipolopolo Boys de la Zambie auront l'occasion d'essuyer les larmes à l'issue de leur défaite aux demi-finales devant le Ghana et la RDC. Aussi, les deux pays s'étaient déjà retrouvés lors du match des poules A de ces Chan et le score était des 0-0. La finale, quant à elle, intervient demain dimanche sous le coup des 17h, heure de Kinshasa, entre la RDC et le Ghana. Ainsi s'achève ce journal. Nous vous disons merci de l'avoir suivi.